Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans Clap Cinéma, la première émission de la saison 25-26. Avec notre ami Jean-Max Méjean. Bonjour Jean-Max.
Bonjour Sylviane et bonjour à nos auditeurs.
Voilà, alors on reprend notre rythme qu'on avait commencé au printemps et là ça va être régulier. Donc une émission par mois rediffusée aussi une fois et en podcast sur notre site de Radio Alliance Plus. Et c'est de circonstance puisque c'est la rentrée, septembre. Hein,
ben oui, c'est la rentrée et voilà, le temps est de circonstances.
Et oui, et vous avez prévu dans cette émission de nous parler, entre autres, hein, il y aura d'autres sujets aussi, sur les écoles de cinéma. Souhaitez bonne chance à tous ces étudiants. La première chose que vous m'avez dite, c'est qu'en préparant cette émission, c'est qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoles de cinéma.
Ben oui, oui, je me suis rendu compte en préparant un peu que moi j'en connais quelques-unes. Bon, beaucoup, on va dire. Mais là, je trouve qu'il y a eu, en l'espace de 10 ans, il y a eu une floraison de tout un tas d'écoles. Alors après, c'est dans cette jungle, comment s'y retrouver? Et évidemment, déjà... Par ville, voilà. Et déjà, puis... ça dépend de l'endroit où on habite. Ouais. Et j'imagine que si on habite au fin fond de la Lozère, ouais, c'est difficile.
Par prix, ça, privé.
Après, il y a les parents qui doivent se renseigner parce qu'il y en a qui sont très, très chers.
Prix, mais... même des publics, hein, même des écoles publiques.
Même des publics, sont... bah, il y a les droits d'entrée. Ouais. Ils sont, même à l'université, les droits d'entrée ont augmenté de façon assez presque exponentielle, on va dire. Ce sont des études qui vont coûter cher, parce qu'après, il n'y a quand même pas que ça, il y a quand même le fait qu'il faut du matériel. Bon, j'imagine que les jeunes qui se lancent dans ce genre de métier, c'est qu'ils ont la passion, que déjà, ils font des films avec, j'imagine, ne serait-ce que leur portable, ou bien s'ils ont des caméras. Bon, enfin, tout ça, je ne vais pas vous l'apprendre, mais ça coûte très cher.
Mais en général, ces étudiants-là qui se lancent dans les écoles de cinéma, ils ont déjà fait un bac option cinéma, général.
Ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé.
C'est mieux.
Oui,
ouais.
C'est mieux.
Parce qu'il y a des écoles aussi où c'est sur concours. Donc
alors oui, alors ça, bah, par exemple, la FEMIS. Il n'y a pas que la FEMIS, mais alors, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par la FEMIS, qui autrefois s'appelait l'IDEC, qui a été créée à l'initiative, je crois, de pas mal de gens, mais dont le professeur Henri Agel, qui après avait créé la chaire de cinéma à Montpellier. Donc il avait créé dans les années 65... la première chaire de cinéma. Alors à l'époque, c'est curieux la vie, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ça fait à peu près 60 ans, on va dire. Ça paraissait un peu baroque. On disait, à quoi le cinéma?
Moi, à quoi ça sert?
En fait, parce que les gens, bon, ils voyaient le cinéma comme un divertissement, à part les gens qui étaient des piliers de cinémathèques et autres, ou qui passaient leur vie dans les salles obscures. Mais les parents... Ils ont dû regarder ça un peu comme un ovni. Et en réalité, pratiquement toutes les universités maintenant ont aussi leur... les débouchés en université, voilà. C'est la question vous pouvez poser.
On fait les écoles de cinéma. Déjà, y entrer, y réussir, c'est combien d'années d'études?
C'est entre 3 et 5 ans. Ça dépend. Après, on peut faire un master. Voilà. Après, il y en a qui font des BTS aussi. Il y a des BTS. Alors, BTS, ça va vous donner plutôt des métiers techniques, genre, je ne sais pas moi, cadreur, par exemple. Ouais. Je ne fais pas de hiérarchie, attention. Je
veux dire que vous me disiez que même à la FEMIS, il y a 17 spécialités. Donc,
17,
il faut vraiment...
Enfin,
il y a un tronc commun peut-être la première année, peut-être.
Il y a des parties en tronc commun, mais après, on se spécialise très vite, d'autant que... Ah oui, ça, je ne l'ai pas dit, mais tout le monde doit le deviner, bien sûr, qu'il faut faire une école prépa, c'est recommandé, avant d'entrer à la FEMIS, parce que le concours est assez difficile. Et par expérience, je connais des gens qui l'ont passé. Alors, ça a peut-être changé, mais en fait, il y avait une épreuve, par exemple, on vous donnait un mot, par exemple, verre d'eau. Mm. Voilà.
Et de là, vous deviez...
Ben, faire... on ne sait pas ce qu'on... Moi, moi je ne sais pas ce que je peux faire. Donc, est-ce que j'écris un scénario sur le verre d'eau ou qu'est-ce que je dois faire?
Oui.
Donc voilà, même déjà... Bah là, c'est un exemple hein, entre mille. Et puis, il y a longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de la Fémis, mais je pense que c'est toujours un peu pareil. C'est assez, c'est même très difficile d'y
entrer. Difficile. Hein. Alors, vous êtes bien placé, puisque vous avez enseigné dans le cinéma dans le lycée Georges Brassens.
Oui, enfin, hein. j'avais encadré les élèves qui passaient l'option cinéma. Voilà. Mmh. C'était un lycée à option artistique. Alors, il y avait une option... On n'en pouvait pas créer officiellement une quatrième option, sinon on était obligé d'en perdre une. Donc nous avions musique, danse, parce que c'était des élèves du conservatoire en grande partie National Supérieur de Musique et de Danse de la ville de Paris. Et il y avait option italien LV3. Donc on ne pouvait pas créer une quatrième option, sinon on en perdait une.
Alors ouais, dans ce cas, vous
mettiez à mal avec les professeurs. Puis en plus, on ne pouvait pas perdre la musique et la danse.
Bah
c'est
non,
pas
c'est
possible,
pas...
puisque
le
ce
choix
lycée...
était compliqué.
Qui a été détruit par nos chers dirigeants il y a 3 ans, était un lycée qui fonctionnait très bien avec un taux de réussite au bac, je tiens à le redire, de 99,90.
Ah oui.
Donc il y avait quoi? Il y avait 2 élèves qui échouaient, et encore, je ne sais pas pourquoi.
Donc vous êtes bien placé pour voir un peu les inquiétudes, mais aussi la passion de
alors,
ces
la passion,
jeunes,
oui.
parce
alors...
qu'ils savent que c'est un parcours difficile.
Alors, je ne sais pas s'ils le savent, je préfère qu'ils ne le sachent pas avant
trop.
De commencer. Parce que si vous voulez, par exemple, quelqu'un qui veut faire médecine, tout le monde va lui dire que c'est très difficile. C'est sûr, d'autant que la première année, elle est toujours disqualificatoire. Donc, si on part de ce principe, on ne fait rien.
On ne fait rien.
Voilà. Donc, alors, en revanche, moi, ce que je dirais à ceux qui sont... Alors, peut-être certains ont déjà choisi leur spécialité. Peut-être certains sont encore, ne serait-ce qu'en première. Donc, l'année prochaine, ils vont se décider en passant par... comment s'appelle ce grand...
Parcoursup.
Voilà.
Avec toutes ces erreurs.
Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours tendance à oublier ce mot.
Mais parce que vous ne l'aimez pas.
Non, parce que je n'aime pas cette pratique. Voilà. Et donc, il faut qu'ils sachent, je veux faire cinéma, ça ne veut pas dire pour ça... que je vais être
réalisateur.
Alors,
il y a plein de métiers autour
voilà,
du
ça.
Cinéma,
c'est
bien
ça,
évidemment.
C'est bien. Il y a tellement de métiers autour. Alors,
oui, parce que parfois, ils peuvent avoir une vision, comme beaucoup de jeunes, un peu idéalisée. Ça y est, je serai Orson Welles, ça y est, je serai...
Alors oui, voilà.
Xavier Nolan, ça y est.
Je serai...
Voilà. Un grand.
Quentin Tarantino, par exemple. Et d'ailleurs, tous ces gens, c'est très bien, dont vous parlez, que ce soit Xavier Dolan, que ce soit Orson Welles, que ce soit Tarantino, à ma connaissance, n'ont pas fait d'école de cinéma. Federico Fellini non plus.
Oui, donc
Rossellini non
plus. Tout est possible.
Ben, et Luc Besson. Ouais. Luc Besson, vous savez qu'il se destinait à la plongée sous-marine. Il a eu un problème. Est-ce qu'il a été attaqué par des requins ou un problème de...
Je ne sais pas.
À l'oreille à cause de la pression.
De la pression.
Et... Il s'est dit, tiens, je vais devenir assistant d'un réalisateur à New York. Et du coup...
Et de là, de
voilà.
fil en aiguille.
Donc,
non, il peut y avoir des hasards dans la vie.
Mais j'en connais encore des pas très connus de réalisateurs, mais qui ont tous débuté sans faire d'école de cinéma.
Bon,
ce n'est pas obligatoire.
C'est un peu les hasards de la vie, les rencontres. Et il y a un chanteur, on parlera tout à l'heure des liens entre la chanson, le cinéma, enfin l'art, la musique, la danse. Et comme première musique, vous avez choisi, bien sûr, Nougaro, le cinéma.
Le cinéma, bien sûr.
Sur l'écran noir de ma nuit blanche, où je me fais du cinéma. D'abord un gros plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. Sur ta poitrine grand format, voilà comment mon film commence. Souriant, je m'avance vers toi. 1m80, tes biceps plein les manches, je crève l'écran de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras, le lit arrive en avalanche.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons donc Jean-Max Méjean qui nous parle des écoles du cinéma. Claude Nougaro nous en a parlé aussi d'une façon...
beaucoup plus poétique.
Et nous écouterons une autre musique, alors aussi chantée par Christophe, pour bien montrer que le cinéma, il faut tout de même avoir une culture générale. Il ne faut pas avoir que le cinéma, hein. Il faut connaître aussi les auteurs, les musiciens, les compositeurs.
Bien sûr. C'est ce qu'on appelle le 7e art, c'est l'art complet. Ouais. Parce qu'en fait, il fait appel à tous les arts, la musique, ben évidemment la peinture, la photo, l'écriture, parce que le cinéma est d'abord écrit,
il y a le scénario,
et d'abord à la base il y a le scénario, il y a tout dans le cinéma, mais les costumes aussi, c'est les décors, l'architecture, enfin bref, tous les métiers sont là, hein.
Donc voilà pourquoi il faut parler du cinéma. Est-ce et là que... plus spécialement des écoles du cinéma.
Alors les écoles, bon, alors j'en ai une petite liste. Alors on a déjà parlé de la FEMIS, mais on a également Louis Lumière, bien sûr, qui est sur dossier, évidemment, qui est à Lyon. Il y a l'INSAV à Toulouse. Alors, l'INSAV à Toulouse, j'ai quelque chose dont je recommande de voir un film de Frédéric Saucher, Le cours de la vie, qui est un très, très beau film. Alors, il existe maintenant en DVD, ça tombe bien, où vous pouvez le... comment on appelle ça, le télécharger sur des sites. Et il raconte l'histoire d'une scénariste qui vient faire une masterclass justement à l'INSAV de Toulouse. Et au cours de cette masterclass, elle se souvient qu'elle a eu une histoire d'amour avec l'actuel directeur. Voilà, donc c'est à la fois un film sur la transmission, la passation, et sur aussi le souvenir des amours oubliés, quoi, voilà.
Oui, ça peut être
C'est très poétique comme film, j'ai beaucoup aimé. Et, voilà.
Oui, on n'oublie pas, dans cette première émission, on parle des écoles, mais on parle souvent des films et que vous en voyez beaucoup chaque semaine. Hein,
voilà,
peu moins pendant les vacances.
J'ai eu une panne sèche, là, et j'avoue que j'étais un peu fatigué. Non, et en fait, j'ai parlé aussi de Le cours de la vie, parce que Frédéric Saucher est professeur à la Sorbonne et professeur de cinéma, justement à Paris 1. Voilà, donc raison de plus pour voir son film et vous rapprocher.
Il y a les écoles publiques, les écoles privées,
voilà,
les facs.
Alors, je m'étais arrêté à l'INSAV de tout. Il y a l'ESRA. Alors, il y en a une qui a un drôle de nom, c'est Courtrage-mé. En verlan, court-métrage, évidemment. Il y a l'ESSEC aussi à Lyon. Et il y en a un dont un de mes élèves est sorti et qui a été remarqué plusieurs fois. Alors, il a fait toujours des films à trois. Ils sont trois, justement, de la Cinéfabrique à Lyon. Et j'ai découvert grâce à lui cette école. Alors, c'est une petite école qui est formidable puisque... ils en sortent et leur film a été remarqué à Cannes. Ensuite, il y a quelque chose. Je parlais de Luc Besson, mais elle est fermée malheureusement. Maintenant, il y avait l'école de la cité de Luc Besson qui est fermée. Et puis, vous avez les facs, hein, Paris 1, Paris 3, Paris 5, Paris 8, qui était autrefois Vincennes, qui maintenant est Saint-Denis. Voilà, alors on a dit un petit peu que les facs, c'est plutôt... Alors, moi, c'est mon petit point de vue en moi, hein, mais quand on fait la fac, bon, comment on peut dire sans dire que c'est plus facile? Disons qu'il y a moins d'obstacles, à part en passant par la moulinette, là. Mais une fois que vous y êtes, après, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça.
C'est les débouchés, une fois qu'on a son diplôme.
Moi, je pense que c'est très bien pour les gens qui veulent se destiner, par exemple, au métier de critique de cinéma, un peu ce que je fais. Mais il n'y a pas d'école, ça n'existe toujours pas, des écoles où on apprend à être critique de cinéma. Critique de cinéma, ça se fait un petit peu par
Il faut déjà avoir un vécu, il faut déjà avoir une petite petit bagage.
Il faut avoir vu beaucoup de films, il faut s'exprimer relativement bien et par écrit et par oral. Ça dépend après du média qu'on va choisir.
Et puis entre l'objectivité, la subjectivité, donner envie, ne pas donner envie.
Il faut avoir l'esprit critique, évidemment. Et il faut avoir aussi, on va dire, un sens de l'honnêteté. On va pas aller, par exemple...
Dire toujours c'est très bien ou c'est très mauvais. Parce
non,
qu'on
puis on a
pas
des règles déontologiques. Là, par exemple, j'ai parlé de Frédéric Saucher que je connais très bien. Et je le fais parce que j'aime son film. Il ne faut pas dire, on va dire du bien des films parce qu'on est copain avec le ou la réalisateur-réalisatrice.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'école de critique de cinéma.
Non, ça n'est, à ma connaissance, non. Alors, pourquoi pas la fac, hein,
Oui, parce que ça peut être dans des options littéraires, en fait, apprendre à... Parce que ça peut être un critique. Quand on critique un livre, quand on fait un compte-rendu d'un livre, on en fait aussi une critique. Donc, ça pourrait être dans la même option, peut-être.
Puis, par exemple, à Paris 1, là, je sais que Frédéric Saucher, il organise des rencontres étudiants-réalisateurs ou étudiants-producteurs, par exemple, pratiquement pas tous les corps de métier, mais certains corps de métier du cinéma. Et par exemple, il y a N.T. Bean, qui est professeur aussi à Paris 1 comme lui, et qui lui est critique, il est un des membres directeurs de Positif, de la revue Positif. Donc par eux,
oui.
Parce que c'est un métier, il ne faut pas se leurrer, ça, critique, ça se fait beaucoup aussi, peut-être pas par cooptation, mais par
amitié,
copinage, par amitié. Copinage, ouais. Moi, je sais que j'appartiens à trois supports, et quand il y a des jeunes qui sont venus me dire comme ça, on voulait faire ceci, on aimerait bien être critique de cinéma. Donc, je les ai fait rentrer dans mes supports.
Ouais.
Bon, bien, malheureusement, ils n'y sont pas payés.
Ouais.
Au départ...
Oui, mais ça peut leur donner déjà une...
Ça leur montre comment on fait. Ouais. Et moi, je trouve qu'ils ont fait beaucoup de progrès. Mmh. Je parle comme les vieux profs, là. comment dire ? Ils ont appris un peu... D'abord, qu'est-ce que c'est que la critique ? Comment on écrit ? Comment...
Mmh. Ou bien oui, il faut déjà avoir du style. Il faut déjà avoir quelque
Alors, après,
chose.
Il faut avoir, oui. Si ouais. c'est écrit, il faut avoir du style. Mais là, par exemple, ici, j'ai remarqué la jeune fille, là, qui s'appelle Chanel, c'est bien ça.
Ouais.
Je l'ai entendue, elle fait des billets, mais elle est formidable. Hein.
Mais oui, c'était lors d'une salle sous les étoiles en juillet.
Oui, oui,
et
oui.
C'est vrai
mais
que
j'ai
c'est...
même écouté des posts. Ouais. Elle est formidable.
Et oui, ben, merci.
Elle a fait une école de cinéma.
Non, pas du tout.
Elle s'est formée ici, alors
Avant, par elle-même, autodidacte,
par elle-même.
Je pense.
Ben, écoutez,
donc bravo Chanel, et vous avez ces podcasts sur le site de Radio Alliance Plus.
Oui, et il faut les écouter parce qu'elle a le sens de l'humour, et même c'est quelquefois assez poétique.
Oui. Et puis il y a Laura aussi là qui est derrière
oui.
notre pupitre,
ah ben,
qui a fait aussi des chroniques pour recevoir les différents réalisateurs.
Alors elle, c'est pas des billets d'humeur,
c'est pas des billets
des sortes de bio,
ouais.
mais avec une personnalité quoi. C'est pas
ouais.
comme quelqu'un. Bon, je suis allé quelquefois dans des trucs avec des personnes assez connues qui se contentent avant de vous présenter, elles le lisent en diagonale Google.
Eh bien, merci de signaler Chanel et Laura, deux jeunes femmes pleines de talent, pas que dans le cinéma, bien évidemment. Alors, on va écouter, on parlait tout à l'heure de la musique, de la culture générale. On va écouter Christophe qui chante la Dolce Vita et donc il aimait la musique, il était collectionneur, cinéphile.
Il était, et il s'enorgueillissait d'avoir trouvé une copie du film La Dolce Vita en bobine.
En bobine, oui.
Évidemment pas en DVD. À Federico Fellini lui-même qui devait venir le présenter, je crois, à Lyon et qui ne l'avait pas. Et donc Christophe lui a prêté sa copie.
Oh, ben dites donc, quelle marque de reconnaissance aussi et de, comment dire, d'admiration.
D'admiration.
Donc la Dolce Vita, là, par Christophe.
Tous les soirs sans fin, je traînais sur ma Vespa, dans mon gilet de satin, c'était la Dolce Vita, je cherchais l'aventure, jusqu'au petit matin, je me prenais pour bénir en conduisant d'une main. Mais je t'ai rencontré et puis tout a changé. Le piège était facile. Est tombé dans mes bras, on se promenait en ville, c'était la Dolce Vita, et cette façon que tu avais de te serrer contre le revers de mon smoking blanc cassé ne pouvait pas me blaser, même dans l'obscurité.
Alors, dans cette dernière partie de l'émission Clap Cinéma de Jean-Max Méjean, vous allez parler de livres. Hein, on n'a pas parlé de sortie de films, on en parlera dans l'émission suivante d'octobre. Il faut le temps qu'on en voit. Et là, vous allez parler de deux livres qui sont à lire par les étudiants en cinéma.
Voilà, bon, je les ai choisis exprès, évidemment. Alors, il y en a un. Alors, on s'attend. Ah bon, il y en a plein de livres qu'il faut avoir lus. Hein.
Oui.
Qu'est-ce que le cinéma de Bazin, par exemple. Enfin, bon, moi je n'aime pas particulièrement. C'est un recueil de tous les textes qu'il a écrits. Non, moi j'ai lu cet été. C'est un pinsomme, je vous avoue quand même. Quand j'ai eu ce livre entre les mains, là, aux éditions Grasset, mais la version poche, hein, de presque 800 pages.
Je suis et en vacances, très... je
Mais c'est très, très intéressant, en fait. C'est Thierry Frémaux. Alors, on ne le présente pas, Thierry Frémaux.
Bien sûr,
le
Festival
Donc,
de Cannes.
Donc, j'ai dit, vous savez tout le mal que je pensais du Festival de Cannes. Mais ce pauvre monsieur, quand on lit, c'est Sélection officielle 2015-2016. Il a noté tout ce qu'il a fait pendant cette année, c'est-à-dire de la clôture du Festival 2015... à la préparation de l'édition 2016. Voilà.
800 pages pour une année. Ouh.
Oui, alors il raconte tout par le menu. Bon, j'espère que ça ne va pas vous faire peur, mais ce qui est intéressant dans ce livre, il y a deux choses, à mon avis. C'est déjà d'écouter parler, d'être presque dans l'intimité de ce grand monsieur. Il faut quand même dire que c'est le secrétaire général du Festival de Cannes, il n'est pas le directeur, attention. Et en même temps, les ressorts, les méandres, les secrets, comment ces gens-là, mais alors je vous assure qu'ils sont... moi, je ne sais pas. Ah bon, il a une équipe avec
Bien
lui.
Bien sûr.
Hein. Mais il y a beaucoup de... Ah bah, il y a d'ailleurs mon chef, Lucien Logette, là, de Jeune Cinéma, qui participe au choix de ces films. Non, je ne sais pas. Alors, quelquefois, maintenant, avec il les voit de chez eux, mais souvent, il y a des projections dans des salles qui sont à Paris, ou qui, pour ceux qui sont en province. Enfin, mais c'est un travail. Mais
il faut en voir combien
oh, je ne sais pas. Je crois qu'ils en voient 800 000. Mais c'est plus... Alors, ce qu'il raconte et qui est le plus intéressant, c'est des gens qui ont peur de ne pas faire partie des gens célèbres. Hein, je n'en aurais pas. Lui, il est énorme. Hein, et qui l'appellent, qui lui envoient des mails, qui lui disent « Mais alors, tu as eu le temps de voir mon film ?» Par exemple, Kusturica, pour ne pas le nommer, qui comptait que son film serait dans la compétition de 2016. Et puis, toutes les tractations. Ouais. Et lui qui...
Il doit arbitrer, décider. Ben,
c'est lui qui est un peu le chef d'orchestre de tout ça. Moi franchement... Bon,
vous ne l'enviez pas.
Ah, je ne l'envie pas, mais j'ai presque tendance à dire que, bon, j'admire sa patience. Moi, je ne sais pas si j'aurais cette patience.
Oui, parce que c'est le monde du cinéma, il y a tout de même des égos très,
voilà,
très développés,
ça,
donc il faut savoir être diplomate.
À commencer par celui de l'auteur quand même,
parce que...
Alors, c'est Claffy aussi, si vous aimez un peu... Pas vraiment des potins, mais comment était habillée Catherine Deneuve. Voilà, alors tous les jours, trois fois par jour, il a un repas. Alors, au coup, c'est avec Martin Scorsese, un coup, c'est avec Catherine Deneuve, un autre coup, c'est Juliette Binoche, un autre coup. Mais moi, ça me donne le tournis. Mais au bout d'un moment, on se dit, mon Dieu, mais.
Oui, parce que ça dure des semaines, c'est un monde de différence, c'est évident. Donc, vous avez appris beaucoup de choses et vous avez l'impression que pour un étudiant en cinéma, ça lui donne une vision des coulisses.
Oui, il n'apprendra pas comment on fait un film, mais il apprendra comment on peut essayer de faire des films pour aller dans un festival. C'est déjà pas mal. Moi, je n'ai jamais compris comment il fallait faire.
Il n'y a pas que le Festival de Cannes, hein, quand on voit tous les festivals.
Mais alors, il parle aussi d'autres festivals, en fait. D'accord. Parce qu'un peu après, c'est-à-dire en septembre, là, en ce moment, vous avez Venise, mais vous avez... Enfin, tous les festivals. Ils sont en relation entre les festivals.
Non, mais il y a des plus petits festivals, mais importants
aussi. Ah bon, après,
aussi,
les, hein, moi, je préfère les petits. Non, mais il y a aussi le fait, par exemple, qu'il faut qu'ils sachent si, par exemple, Venise, qui aura lieu en septembre, a des vues sur le film que lui veut prendre. Enfin, il y a plein de...
Heureusement qu'il a une équipe. Hein.
Ah, ben,
qu'il y a les ordinateurs aussi.
Et alors justement, il parle de quelqu'un qui s'appelle Xavier Dolan.
Voilà, c'est le deuxième livre que vous avez lu, qui est moins long, qui est moins gros.
Oh, non, il fait 126 pages, mais il est essentiel. Et je l'ai co-dirigé avec Shiva Fouladi, qui est une critique iranienne qui vit en France maintenant depuis 6 ans. Et qui avait une carrière en Iran, mais qui l'a quitté pour des raisons que
évidentes.
On imagine facilement. Et donc, qui dirige ce livre. Alors, c'est un livre écrit à 7, s'appelle Xavier Dolan, La folie des passions, c'est chez L'Harmattan. Et alors là, moi, je le conseille aussi à des jeunes qui veulent s'orienter vers le cinéma, parce que justement, Xavier Dolan a des parents. Son père était musicien, sa mère était secrétaire dans un lycée. Il a commencé, à 6 ans, il a fait des pubs pour une pharmacie, des pubs filmées.
C'était
et puis petit à petit, il est rentré.
Passion, quoi.
Mais il est rentré dans la carrière. Il a commencé à être acteur. Puis après, il a pris une caméra. Puis voilà, Tipa qui nous fait J'ai tué ma mère, qui est remarqué à Cannes. On l'appelait le Rimbaud du cinéma. Et voilà. Et donc, il est souvent en relation, évidemment, avec Thierry Frémaux.
Donc tout espoir est possible et permis à ces jeunes qui vont entrer dans les écoles ou qui vont tenter d'entrer dans les écoles. Il faut être tout de même lucide, hein, c'est pas facile, mais quel est le parcours facile actuellement? Je pense qu'il n'y en a pas vraiment. Je pense que la base, c'est tout de même
c'est la passion.
Et puis d'aller au cinéma. La folie. Et puis d'aller au cinéma, d'avoir tout de même.
Alors ça, c'est indispensable.
Je connaissais un professeur de cinéma qui disait, moi, un étudiant, par exemple, je lui dis, tu connais les films d'Orson Welles, il ne savait pas. Bon, pour moi, c'était rédhibitoire.
Ah, on ne peut pas trop leur en vouloir non plus.
Mais bon,
ils ont quel âge, ces jeunes? Ils ont 17, 18 ans,
mais
19 ans.
Ça suppose qu'on lit justement des livres sur l'histoire du cinéma avec les grands du cinéma.
Mais moi, je ne peux pas leur en vouloir de ne pas avoir vu ne serait-ce que le 1/10
bien sûr
de ce qui a été fait.
Oui. Mais au moins les noms, quoi.
Les noms,
pas,
oui.
Pas, c'est pas un inconnu.
Ah bah oui, ça c'est sûr.
Et alors
sûr.
Vous avez choisi en générique de fin, là aussi, une grande du cinéma, une actrice, parce que le cinéma sont les acteurs et ce sont les actrices, hein. Sans eux, il n'y a pas de cinéma.
Bah oui.
Et c'était une chanson qui avait été écrite pour Marilyn Monroe, mais comme Elton John l'a chantée lors des obsèques de Lady Diana
lui a fait de l'ombre.
Maintenant, on pense plutôt à Lady Diana.
Ah oui, quand on entend Candle in the Wind, on pense à Lady Diana, mais en fait, c'est Marilyn, cette petite chandelle dans le vent.
Eh bien, écoutez, merci Jean-Max pour cette émission de rentrée. On vous retrouve très bientôt. Prenez votre courage à deux mains pour retourner au cinéma.
Oui,
dans les salles.
J'y vais tout à l'heure, là.
Voilà. Eh bien, c'est très bien, mais vous y êtes tout le temps. Merci Jean-Max,
merci,
à très bientôt.
Merci Sylviane, à bientôt. All the papers had to say was that Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind. Never knowing who to cling to when the rain set in. And it seems to me you lived your life.